Vous écoutez France Culture.
Bonjour. La crise financière est pratiquement toujours abordée, commentée, analysée par des économistes. L'aspect pénal est beaucoup plus rarement abordé. C'est pourquoi un juge américain, le juge Rakoff, a jeté en décembre dernier un pavé dans la mare en s'étonnant que peu, voire aucune poursuite pénale n'avait été engagée et que, en bref, le département de la justice américain n'avait pas fait son travail par rapport à la crise financière. C'est donc cette dimension criminelle des pratiques de la finance que nous voudrions aborder aujourd'hui avec Jean-François Guéraud. Jean-François Guéraud est un haut fonctionnaire de la police nationale. Il s'exprime bien évidemment ici en son nom personnel et il est l'auteur de nombreux ouvrages portant précisément sur ces liens troubles, problématiques, inquiétants entre le crime organisé et la finance. Je citerai chez Odile Jacob « Le monde des mafias géopolitiques du crime organisé » en 2005, plus récemment « La grande fraude, crimes subprimes et crise financière au pluriel » en 2011, « Géostratégique du crime » avec François Tual en 2012. Alors, Jean-François Guéraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous insistez sur ce que vous appelez l'aveuglement aux faits criminels. On a l'impression que dans notre pays, comme d'ailleurs dans d'autres pays, on parle plus facilement du crime pour les petits délinquants, pour les gros délinquants, mais pas pour ce qui a été consacré comme le crime en col blanc.
Oui, c'est tout à fait exact. Alors, vous abordez ou vous ouvrez une question vaste et complexe qui est celle en fait du déni. Il y a un déni global et généralisé sur la question criminelle et en général la chose criminelle est abordée sous un angle un petit peu marginal, folklorique, c'est sous l'angle du journalisme, le fait divers. Alors c'est en soi intéressant, mais cela ne rend pas compte de la véritable dimension de l'ensemble des phénomènes criminels dans le monde moderne et surtout dans le monde post-guerre froide. Et dans ce déni qui est parfois un impensé total, je me suis rendu compte que depuis que la chose économique, que la discipline économique s'est formalisée depuis le XVIIIe siècle, eh bien, les grands théoriciens de l'économie n'avaient jamais pensé le fait criminel ou ne l'avaient pas introduit dans leur réflexion. C'est un impensé, c'est un angle mort quasiment absolu et total que l'on retrouve aussi bien chez les néoclassiques que chez les libéraux, ou plus exactement encore plus chez les néolibéraux. Voilà, c'est un oubli, c'est un angle mort qui aujourd'hui a des conséquences, à mon avis, mortifères.
Oui, c'est ça. Mais comment vous expliquez cet oubli? Parce que je crois que vous apportez la réponse à la fin de votre livre, en réalité.
Alors, il y a certainement de multiples raisons. La principale raison, les économistes, d'abord, sont des positivistes en diable. Ce sont des hyper-positivistes. Ils considèrent que la chose criminelle est quelque chose, est un concept ou est une catégorie subjective et relative. On peut se souvenir de ce que disait Jean-Baptiste Sell, disait « un vol de portefeuille, c'est un déplacement de richesse ». Ce que ne veulent pas comprendre les néoclassiques comme les libéraux, c'est que le crime n'est pas un phénomène neutre. Il peut être soit destructeur de valeur ajoutée, soit de manière beaucoup plus subtile et pernicieuse. Le crime, quand il devient systématique, voire systémique, il peut profondément modifier le mode de fonctionnement des marchés économiques et financiers, et donc l'allocation des biens et des services. J'explique ça en général par une formule. Je dis, ce qui se produit souvent, c'est une loi de Gresham systémique. La loi de Gresham en économie...
Vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que c'est
voilà.
Que la loi de Gresham.
La loi de Gresham en économie financière, c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est ce fameux paradoxe selon lequel, quand on a deux monnaies, l'or et l'argent, on va thésauriser la bonne monnaie, l'or, et on va utiliser l'argent. Eh bien, souvent, quand le crime est omniprésent sur les marchés économiques financiers, on voit les mauvaises pratiques chasser les bonnes pratiques et on voit les mauvais acteurs prendre le pas sur les bons acteurs parce qu'il n'y a pas de régulateur, parce qu'il n'y a pas de police, parce qu'il n'y a pas de contrôle.
Alors, on va revenir plus sur cette explication que vous apportez, me semble-t-il, à propos notamment des poursuites ou des non-poursuites contre les délinquants financiers. Mais vous partez sur une distinction qui est très importante d'avoir bien clair à l'esprit entre le crime organisé d'une part et la criminalité en col blanc. C'est pas la même chose, Jean-François Guéraud.
Non, ça n'est pas la même chose. Alors, nous sommes tous habitués à nos gangsters traditionnels, le milieu, la pègre. Mais nous avons découvert récemment, ça remonte aux années 30, un très grand sociologue, Edwin Sutherland, la notion de criminalité en col blanc. C'est quoi la criminalité en col blanc? C'est la criminalité des élites politiques, économiques et financières. Cela peut nous sembler relativement évident, mais il faut savoir qu'intellectuellement, ce fut une avancée absolument considérable, qui s'est d'ailleurs produite dans le contexte de la crise des années 30, à l'époque où, par exemple, Roosevelt et les Keynésiens ont pointé du doigt l'origine de la crise financière des années 30, qui est une crise issue des élites financières.
Que vous mettez en exergue de votre livre, d'ailleurs.
Exactement.
Une citation de Roosevelt.
Et d'Al Capone. Mais ce qui est très important dans ce concept de criminalité en col blanc, c'est que Sutherland nous dit la criminalité des élites, elle existe, mais elle est invisible socialement, judiciairement et intellectuellement. On ne la voit pas, mais elle est omniprésente. Et il y a même un deuxième aspect de la pensée de Sutherland, alors là, qu'on a carrément occulté, parce qu'elle nous dérange. Sutherland dit tout simplement, s'il y a de la criminalité chez les cols blancs, on ne peut donc pas expliquer le crime par des raisons, par le contexte socio-économique, puisque par définition, les riches sont riches, et donc ils ne volent pas pour des raisons de pauvreté. Donc en fait, il renverse le fameux axiome, au fameux paradigme socialiste et marxiste selon lequel c'est la pauvreté qui conduit au crime. Quoi qu'il en soit, il est évident que dans le monde post-guerre froide, et on va y revenir, la criminalité des cols blancs, en particulier sur les marchés financiers, est une problématique centrale et beaucoup plus importante, évidemment, que celle du crime organisé traditionnel.
Alors moi, je pensais à une autre explication qui est celle qu'on apportait autrefois pour les pirates en disant celui qui commet des crimes sur mer délinque moins que celui qui les commet sur terre. Parce qu'on n'est plus dans un ordre politique bien structuré, bien identifié. On n'est plus sur un territoire. La finance est déterritorialisée. La finance, d'ailleurs, c'est souvent des métaphores liquides. On parle de flux financier qui va revenir. Est-ce que vous ne pensez pas que non seulement ce type de délinquance est invisible, mais on ne la ressent pas? Ou plus exactement, on a beaucoup de difficultés à imputer des dommages terribles que vous avez décrits dans votre livre, d'ailleurs, en termes de chômage, d'emploi, etc., on a beaucoup de mal à l'imputer à des auteurs tellement les mécanismes sont complexes.
Bien sûr, ce qui protège cette criminalité des élites, surtout sur les marchés financiers, c'est le fait qu'elle est invisible, je le répète. Elle n'a pas de matérialité immédiate, elle n'a pas d'évidence intellectuelle. Un vol à main armée a une évidence et une matérialité. Un trucage de cours boursiers, de la spéculation criminelle ou un délit d'initié est en soi une notion très abstraite, très complexe d'un point de vue intellectuel, encore plus difficile à matérialiser et à conceptualiser. Donc évidemment, tout ça peut se diluer facilement et passer sous le radar de la vigilance intellectuelle et judiciaire.
De nouveau, une métaphore liquide dans la dilution.
Oui, encore que vous disiez que la finance représente un ensemble de flux et n'est pas territorialisée. Ça n'est qu'en partie vrai, car il y a une géographie du capital. Il y a des lieux du capital, il y a des épicentres. La City, Wall Street, Singapour, etc.
Est-ce qu'il y a une américanisation? Est-ce que vous pensez qu'il y a une influence américaine dans ce laxisme moral ou dans cette concentration sur la prédation qui est la difficulté de cette forme de délinquance en col blanc? Jean-François Guéraud.
Alors, je vais vous faire deux réponses. Premièrement, il y a une géographie américaine, puisque l'épicentre de la finance, grosso modo, au XXe siècle, sera encore le cas pendant très longtemps, au XXIe siècle, se situe dans l'axe Wall Street-Londres. Bon. Seconde réponse, je pense qu'il ne faut pas individualiser à travers un facteur culturel ou national. Le fond du problème est celui du contexte, pour utiliser le très beau titre d'un roman de Tchatcher. Quel est le contexte de cette modernité post-guerre froide? Nous sommes dans un nouveau capitalisme. Nous savons, grâce à Fernand Braudel, que le capitalisme est changeant, qu'il prend de multiples visages. Et le capitalisme post-guerre froide, c'est un capitalisme qui a rompu avec la stabilité de 40 années d'un capitalisme de type fordien, New Deal, qui nous avait peu ou prou, même s'il était imparfait, prémunis contre les crises financières. Et le capitalisme que l'on voit naître depuis les années 80 a trois caractéristiques criminogènes. Il est excessivement financiarisé, dérégulé et mondialisé. Et quand je dis criminogène, je ne dis pas criminel. Je ne porte pas de jugement sur l'essence ou la nature profonde du capitalisme. J'essaye simplement de montrer que ce capitalisme a des potentialités et des dynamiques criminelles, c'est-à-dire qu'il crée des incitations et des opportunités à la fraude inédites dans l'histoire.
Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et dire que le marché en lui-même crée une forme mafia ? Je m'explique. C'est-à-dire que quand on voit l'affaire du Libor, on se rend compte que nécessairement, la fixation des coûts des prêts interbancaires reposait, et j'allais dire devait reposer, sur un club de gentlemen qui se prennent le thé de temps en temps à Londres ensemble et qui décident de ces taux. Alors, ce ne sont pas du tout des mafieux, et vous ne le dites pas d'ailleurs non plus, mais la structure même du marché les conforme, les formate sous une comme la coupole des mafieux siciliens.
Oui, je partage votre point de vue. C'est-à-dire que de même que je viens de tenter d'expliquer que le système est criminogène de par son architecture globale, sa nouvelle configuration, ce système comporte aussi aujourd'hui des pratiques et des outils qui, sans être spécifiquement criminels, sont criminogènes. Vous preniez donc l'exemple en fait, de cette dérégulation, de cette privatisation de la fixation d'un taux majeur, mais on pourrait avoir le même raisonnement pour le mécanisme de la titrisation qui a été au cœur de la crise des subprimes. Il n'est pas criminel, mais de par sa nature, il a été criminogène.
Bien sûr.
On pourrait parler des outils, par exemple, d'anonymisation du capital dans le monde moderne, les fiducies, les trusts.
Oui. D'ailleurs, on remarquera que ça remonte dès le début du 19e siècle, c'est-à-dire que dans la constitution de la société anonyme, dans la constitution même de la finance, il y a eu un gros débat politique, d'ailleurs, au début, en disant on sort d'une domination politique et là, on va se remettre entre les mains de maîtres anonymes, quoi, parce que ça sera précisément les financiers. Donc, c'est un vieux débat. Il y a un exemple sur lequel vous insistez beaucoup, qui est le trading haute fréquence. Est-ce que vous pourriez expliquer à des auditeurs qui ne sont pas des docteurs en économie, en quoi cela consiste et en quoi ça illustre votre propos sur une structure très peu régulée et très criminogène.
Alors, le trading de haute fréquence est un très bon exemple de ce qui se produit dans la société de l'information et de la communication, c'est-à-dire que tout ce qui est important ne fait pas débat. Nous sommes dans une société qui aime le superficiel et le divertissant. Et dès que les phénomènes sont invisibles et profondément structurants, ils n'arrivent pas à émerger dans le débat public. Alors, il n'y a nul complot dans le phénomène. C'est simplement le processus même de cette médiasphère et de la nature du débat public qui le produit. Alors, c'est quoi le trading d'haute fréquence ? Eh bien, c'est grosso modo la technique juridico-financière. C'est d'abord une technique qui fait fonctionner depuis une vingtaine d'années la moitié, voire les deux tiers de tous les marchés financiers. Marché financier qui est aujourd'hui une position de surplomb par rapport à l'économie réelle et par rapport aux institutions politiques. Or, c'est quoi cette technique ? On arrive dans la nanoseconde à des transactions de très grand volume. Et je donne l'axiome suivant, quand vous êtes dans l'hypervitesse et dans l'hypervolume pour des transactions, vous créez de l'invisibilité. Et une invisibilité d'autant plus redoutable qu'elle est transnationale. Vous voyez bien où je veux en venir, hein. C'est comme la vieille parabole de l'anneau de Gyès chez Platon, c'est quand vous produisez de l'invisibilité, vous générez des situations qui favorisent l'émergence de fraudes. Et avec le trading d'haute fréquence, nous avons deux problématiques. Nous avons une problématique pénale et microéconomique. Il est possible que du fait de ces hypervolumes et ces hypervitesses, nous ne verrons plus jamais les fraudes financières, ou si nous les voyons, nous n'arriverons plus à les matérialiser ou à en administrer la preuve devant une juridiction pénale. Et puis, seconde problématique, et là, on va sortir du pénal et du micro, on va monter au niveau du macroéconomique et du macro-pénal, s'intéresser à l'architecture. Qu'est-ce que l'économie globale de ce système signifie ? Quand vous le décortiquez un peu, vous voyez que le trading de haute fréquence, on n'a pas le temps de le faire ici, c'est certainement de manière systémique du front-running technologique, c'est-à-dire qu'on a légalisé le délit d'initié.
C'est ça.
Le trading d'haute fréquence, c'est certainement aussi l'hyperspéculation qui est légalisée.
Alors, vous prenez un exemple dans votre livre qui est extrêmement parlant, qui a éclairé le béotien que je suis, pour expliquer ce que c'est que cette forme de trading. C'est comme si vous étiez dans un supermarché, que vous dirigez vers les caisses, les 9 caisses sont libres, et au moment où vous arrivez à la caisse que vous avez choisie, il y a 15, 20 personnes qui passent avant vous et qui parasiter en quelque sorte l'opération, la transaction que vous apprêtez à faire, François.
Voilà, c'est exactement cela. C'est comme si vous pouviez lire le journal du lendemain. C'est-à-dire que quelques opérateurs, qui sont les opérateurs du trading d'haute fréquence, ce sont principalement des fonds spéculatifs et des très grandes banques d'investissement et des banques
universelles. Parce que ça réclame un très gros investissement technologique pour faire ça.
Voilà, il y a une course aux investissements technologiques, il y a une course aux armements. Ce sont en fait des ordinateurs surpuissants avec des algorithmes intelligents. On est au bord, on est quasiment dans les romans de Philip K. Dick, hein. On est vraiment dans un autre univers. Et donc ces opérateurs, parce qu'ils ont un avantage technologique, donc financier, arrivent à se positionner toujours en avance sur les marchés. Donc, ils ont un avantage compétitif qui vient fausser définitivement l'allocation des transactions.
Alors, ce qui est inquiétant, ce qui est angoissant dans ce que vous nous dites, c'est que on mesure à quel point les armes classiques de l'État, que sont les enquêteurs, les policiers, les magistrats, sont désarmés non seulement par manque de moyens, par retard, la dialectique réglementaire, etc., mais par une quasi impossibilité de détecter et donc de poursuivre ces fraudes, Jean-François Guéraud.
Oui, nous sommes là à nouveau dans une situation caricaturale dans laquelle nous avons des verticalités étatiques aveugles, confrontées à des flux transnationaux, mobiles, intelligents et puissants. Et cette réflexion, on peut l'avoir pour les flux financiers, on peut les avoir aujourd'hui pour les flux criminels, y compris quand ce sont des puissances criminelles. Et vous voyez bien que lorsqu'on est à la jonction de puissances financières criminalisées ou d'organisations criminelles qui se financiarisent, le défi pour des États toujours plus nombreux sur la planète est devenu redoutable, voire mortifère.
Oui, mais alors, lorsque des actions sont intentées, car il y en a, et il y a des solutions qui ne sont pas satisfaisantes, mais il y en a, on tombe sur un argument que vous développez beaucoup, qui est cette fameuse objection « too big to fail », trop gros pour tomber, « too big to jail », trop gros pour aller en prison. Puis après, vous ajoutez d'autres choses auxquelles on reviendra, qui sont très intéressantes. Est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que cela signifie, cette objection « trop gros pour être condamné » ?
Alors, il faut en effet partir du « too big to fail », hein. C'était le grand argument au moment de la crise des subprimes. Nous avons affaire à des entités financières, en particulier des banques d'investissement ou des banques universelles, qui, si elles venaient à faire faillite, entraîneraient par un effet de domino la chute de l'ensemble du système financier et donc de l'économie réelle. Donc, par un effet de taille, ces banques doivent bénéficient de la garantie implicite des États. Alors, ce qui crée, comme ce que les économistes appellent un aléa moral, mais qui est problématique, car ces entités financières prennent des risques à n'en plus finir, et le jour où elles se comportent mal, eh bien, elles sont sauvées par l'argent public. Donc c'est toujours le même process, hein, privatisation des gains et socialisation des pertes. Mais derrière cette course à la taille, on voit très bien que derrière le « too big to fail », il y a un « too big to jail ». C'est-à-dire que les régulateurs et les organes de répression aux États-Unis sont confrontés à une situation très compliquée face à ces acteurs quand ces acteurs se comportent mal au regard de la fraude, que ce soit une fraude civile ou la fraude pénale. Comment identifier des responsabilités pénales dans des mastodontes? Cette responsabilité est très diluée. Deuxièmement, qui doit-on poursuivre? Est-ce la personne morale ou est-ce qu'on poursuit des individus? Et puis, de toute façon, il y a, et la chose a été exprimée par le ministre de la Justice américain Eric Holder à plusieurs reprises, il y a le chantage implicite des banquiers sur le thème. Si vous nous poursuivez en tant qu'individu ou en tant que personne morale, vous faites prendre un risque à toute l'économie, et donc c'est un chantage soit au chômage, soit à la stabilité financière. Et on voit bien qu'en réalité, le débat n'est plus d'ordre pénal, c'est un débat de science politique, de rapport de force entre des souverainetés concurrentes.
Alors, ça apporte une explication à ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que dans le fond, la réalité, c'est qu'on n'est plus dans un univers moral ni même légal, on est dans un univers systémique. Et ce qui est important, c'est de maintenir le système. Et il y a ce chantage qui est le chantage à fragiliser le système, qu'on a vu, entre parenthèses, dans l'affaire du Libor, où la réponse des personnes mises en cause, ont été de dire... c'est vrai qu'on a inventé des taux imaginaires, mais parce que les banques ne se prêtaient plus. Et parce que si on apprenait que les banques ne se prêtaient plus, le système lui-même était en faillite.
Voilà, dans l'affaire du Libor, en fait, on a deux niveaux de fraude, hein, deux niveaux qui n'ont pas été bien perçus. Vous avez tout d'abord, entre guillemets, des opérateurs à l'intérieur de ces banques qui, en réseau de banque à banque, ont fraudé pour de l'enrichissement personnel. Et puis, il y a de manière plus institutionnelle ces banques en tant que personnes morales qui, suite à l'affaire des subprimes, comme vous l'avez dit, ont truqué les taux avec l'accord implicite, subtilement implicite des banques centrales.
Pour en effet éviter, qui a été révélé en ce qui concerne les Britanniques.
Pour les Britanniques, ça a été révélé. Pour en effet pallier cette problématique de liquidité, voire de solvabilité. Mais vous voyez bien que lorsqu'on est obligé de sauver tout un système en organisant la fraude, cela oblige quand même à s'interroger sur la nature même du système.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jean-François Guéraud? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser, retourner, on n'a pas le temps de parler des deals de justice et des amendes transactionnelles qui, dans le fond, sont relativement impuissantes. Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner à une punition des personnes physiques, puisqu'on sait qu'une des causes de cette... des carburants de cette accélération financière, c'est l'intéressement des personnes physiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas une symétrie, une sorte de parallélisme des causes, si c'est effectivement l'appât du gain qui est un des moteurs, un des carburants de la finance, et bien c'est par des punitions des personnes physiques qu'on refroidira la machine.
Alors, il y a certainement plusieurs solutions. La première, on va commencer par celle que vous proposez, donc je vais assumer mon biais professionnel. En effet, de temps à autre, la sanction est quand même porteuse de pédagogie. Car en réalité, tous ces cols blancs vivent dans l'impunité la plus totale. L'impunité pénale, l'impunité professionnelle, l'impunité financière. Donc l'impunité est toujours un encouragement, que vous soyez banquier voleur ou voleur de banque. La problématique n'est pas fondamentalement différente.
Là aussi, je renvoie les lecteurs à des dégagements très intéressants sur la rupture, la fin de la relation banquier-client. Oui. C'est ça qui est très intéressant. Il y a la fin d'une sorte de sentiment de responsabilité à l'égard de ses clients.
Bien
d'abord.
Sûr, bon, c'est exactement. Je le décris dans le livre, car c'est quelque chose qui a profondément changé dans l'économie financière contemporaine.
Mais alors,
donc la première solution, oui, le droit pénal, de temps à autre, le petit bruit des menottes. Hein, vous savez, les élites résistent beaucoup moins à l'odeur de la prison que les gangsters qui, en définitive, souvent, n'en ont rien à faire. Et oui, les élites, par définition, sont moins bien préparées. La deuxième réponse, elle est d'ordre intellectuel. C'est ce que nous faisons là, mettre un diagnostic juste, mettre les bons concepts, les bons mots sur le problème. Quand, dans une crise financière, vous n'avez que des économistes qui parlent, qui vous donnent des solutions économiques, qui vous expliquent que tout ça tombe du ciel, c'est la mécanique des marchés, des cycles, il y a un sentiment de fatalité. Hein, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des catastrophes, ce sont des tragédies humaines. Donc il est toujours important d'avoir le bon diagnostic, les bons concepts, et de voir que dans ces crises financières, il y a aussi une petite dimension criminelle, et parfois même une grosse dimension criminelle. Et puis, il y a une troisième solution, vous l'avez abordée à plusieurs reprises. Parfois, il faut savoir interdire des outils. Les outils ne sont pas neutres. Alors, c'est une vieille question d'épistémologie des sciences, mais aucun outil n'est neutre.
Ils sont eux-mêmes institués, parce qu'on est dans un univers, on n'est pas dans l'univers de la nature. On est dans, pour toujours continuer,
exactement.
On est dans un univers artificiel.
Voilà. Et il y a des outils juridiques ou financiers ou juridico-financiers qui ont des potentialités extrêmement dangereuses. Et c'est là tout le problème.
Pourquoi est-ce qu'on ne les interdit pas, à votre avis?
On ne les interdit pas, tout d'abord, parce qu'ils se sont auto-créés dans un univers dérégulé. Ils se sont imposés de fait. Le trading de haute fréquence s'est imposé de facto. Hein, la dérégulation, ce n'est pas uniquement des lois, mais c'est aussi le poids des nouvelles technologies. Donc, la créativité spontanée, que ce soit, par exemple, pour les produits financiers titrisés, les CDO, les CDS, c'est vrai pour le trading de haute fréquence, c'est vrai pour les fiducies, tout ça naît spontanément du marché, ce qui est plutôt sympathique.
Mais ce qui peut être producteur de richesse. Créateur de richesse.
Mais parce qu'il est producteur de richesse, d'inventivité, de créativité, c'est très bien. Mais tout ça a aussi une part d'ombre qu'il faut savoir identifier. Et de temps à autre, je sais que la modernité spectaculaire et festive n'aime pas ça. Hein, Dixit Debord et Philippe Muret. Mais tout de même, il y a des outils que nous devrions interdire. Mais revenir sur des situations de fait devient très compliqué dans un monde mondialisé.
C'est un peu ce qui se prépare, parce que l'ambiguïté des Américains et des autorités américaines, c'est qu'ils laissent faire, mais c'est aussi ceux qui réglementent le plus. Et là, il y a une réglementation en cours à l'État de New York sur une quasi-interdiction de la haute fréquence.
Non, on en est... Enfin, je crois qu'on en est encore très loin. Et puis, vous savez, Michel Foucault avait bien expliqué ça. On peut être dans la dérégulation et dans l'hyper-réglementation. Oui. C'est-à-dire que l'amoncellement de normes peut cacher une très grande dérégulation. Et en général, plus les normes sont brèves, plus elles sont régulatrices. Donc, je serais prudent là-dessus. Pour l'instant, les fondamentaux de l'économie moderne, depuis 2007-2008, la crise des subprimes, les fondamentaux de la finance n'ont pas évolué.
Alors, Jean-François Guéraud, cette émission approche de son terme. Un mot d'espoir, une perspective, un motif de mobilisation pour un retour de l'état de droit ou d'un minimum de droit dans cette jungle de la haute finance ?
Bien, écoutez, considérons, mais c'est vieux comme la Bible, que la vérité libère.
Eh bien, Jean-François Guéraud, merci.
La chronique du Défenseur des droits sera tenue aujourd'hui par Martin Clément, qui va nous parler du harcèlement sexuel. Martin Clément, bonjour.
Bonjour, monsieur Garapon. Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui du harcèlement sexuel. Ce harcèlement qui est considéré par le droit européen et par la loi du 27 mai 2008 comme une discrimination, précisément fondée sur le sexe. Et cette discrimination, elle est définie, je vous la livre, comme tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et le Défenseur des droits est compétent sur cette matière. Et d'ailleurs, depuis sa création, il a pu mobiliser plusieurs registres d'action.
Quel type d'action pouvez-vous faire ?
Alors, tout d'abord, dans le cadre du processus d'adoption de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, il a pu contribuer à la refonte du cadre juridique en faisant des propositions techniques. Ça, c'est un premier acte. Le deuxième, c'est son cœur de métier. Il a instruit des réclamations portées par des victimes de harcèlement sexuel au travail. Et enfin, il a cette année décidé de lancer une étude sur la perception du harcèlement sexuel comme violence subie par les femmes au travail.
Vous avez participé au débat de la loi du 6 août 2012.
Oui, en tant qu'acteur du débat démocratique, le Défenseur des droits éclaire le gouvernement ou le Parlement sur l'impact de certaines décisions. Il n'entend pas se substituer au législateur ou s'ériger en censeur, mais il a un rôle d'alerte. Et dans le cadre du débat sur la sanction du harcèlement, qui faisait suite à la décision du Conseil constitutionnel de mai 2012, qui a abrogé la question de l'article, en tout cas relatif au harcèlement sexuel, le Défenseur des droits, il a d'abord alerté en invitant le législateur à adopter rapidement une nouvelle loi afin de ne pas laisser les victimes hors du champ de la protection du droit. Et puis, dans un second temps, il a été auditionné au Parlement pour faire part de ses recommandations quant à la rédaction de la loi. Et donc, à l'issue de ce processus parlementaire dans lequel on est intervenu, il y a un nouveau texte qui a été adopté, donc le 6 août...
C'est ça, la fameuse loi, oui.
Oui, 2012, et qui précise, et c'est important de le faire, la définition du harcèlement sexuel, notamment à l'article 222-33 du Code pénal. Je vous la livre, parce qu'il est important que les auditeurs connaissent cette définition. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent soit atteinte à sa dignité, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et donc est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Pour vous donner un exemple, le harcèlement sexuel... Sur ce sujet, les victimes de harcèlement sexuel, lorsqu'elles résistent aux avances dont elles sont l'objet, elles se voient infliger en retour des mesures discriminatoires. Par exemple, refus d'une promotion,
un changement de service,
une placardisation, des sanctions, ou même, ça a été rapporté, des cas de licenciement abusif. Et ces situations caractérisent un harcèlement à raison du sexe, donc une autre forme de discrimination, et donc on est compétent. Et dans les dossiers de ce type, l'intérêt du défenseur qui accompagne les réclamantes qui souvent portent plainte, notamment au Conseil des prud'hommes, pour faire valoir leurs droits, il peut entendre au sein de la suite mise en cause toute personne qui permet d'éclairer la situation, que ce soit les victimes, les témoins ou même les auteurs présumés. Donc évitez la résignation, n'hésitez pas à porter plainte, à évidemment prendre l'appui d'un certain nombre de témoins pour étayer les propos. Pour obtenir réparation.
Eh bien, Martin Clément, merci.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Viviane Noël et à la technique Tristan Gratalon.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission à la page du Bien commun pendant 3 ans et la télécharger même pendant 1 an, et ils consulteront les références et notamment le livre de Jean-François Guéraud qui a été mon invité aujourd'hui. La semaine prochaine, je parlerai de justice du futur avec cette question: existe-t-il une obligation d'anticiper ? Mon invité sera Ariel Colonomos. Mais tout de suite, place à Question d'éthique, l'émission de Monique Cantos-Perbert.